Chapitre 49. Secret Stories. 16h28.
Je cours aussi vite que je peux. Au milieu du champ de canne, je vois encore moins que dans le brouillard du volcan, mais je ne ralentis pas. J'écarte avec mes bras les tiges qui fouettent ma figure et mes jambes toutes nues. Je repense aux paroles de papa quand il m'a réveillée, juste avant la grande route.
Cours, ma puce, cours dans le champ, tout droit, en essayant de suivre le bruit des voitures, mais sans jamais être vue. Fixe le clocher de l'église pour te repérer. Il ne faut pas que tu montes ou que tu descendes. Essaie juste de toujours rester à la même hauteur pour ne pas te perdre. La dame au parapluie, Sopha, tu te souviens? Il faut que tu arrives jusqu'à la dame au parapluie. Il y aura du monde là-bas, beaucoup de monde, tu seras sauvée.
J'ai beaucoup pleuré. Je le savais depuis le début. Papa me mentait. Jamais je ne reverrai maman. Il m'avait pourtant dit qu'elle m'attendait là, près des rochers noirs, juste de l'autre côté de la route. Papa s'est alors accroupi devant moi, comme j'aime bien. Puis, il s'est mis à parler très vite, presque sans respirer.
Tu as raison, ma puce. Ta maman est de l'autre côté de la route. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Il y a une autre dame qui nous attend. Une dame que ton papa a aimée il y a longtemps, la maman d'Alex, tu sais, ton grand frère qui est mort. Ça l'a rendue très malheureuse, la mort d'Alex, et elle est devenue méchante, très méchante, comme les sorcières de tes livres, comme grand-mère Cal. Tu comprends, Sopha? Alors, il faut que tu nous aides. Tu es ma princesse, ma puce?
J'avais le cœur trop serré pour pouvoir répondre.
Tu es ma princesse, oui ou non?
Oui.
Alors tu dois courir, Sopha. Tu dois courir prévenir la fée au parasol, celle qui nous protégera. Tu dois courir le plus vite possible.
Je ne crois plus aux fées, papa. Pourtant, je cours. Je cours aussi vite que mes jambes peuvent me porter. Parce que cette fois, je te crois.
16h29. Trois branches de goyavier gisent sur les galets, écrasées. Le liquide rouge et poisseux qui s'écoule des fruits est presque immédiatement nettoyé par l'écume des vagues qui mordent les pierres. À proximité des goyaviers, une couverture de toile beige est tombée, comme abandonnée par un fantôme apeuré par les trois coups de feu. Une quatrième branche, plus épaisse, entourée grossièrement de feuilles de canne à sucre et de vacoa pour lui donner la forme d'un jeune enfant, a roulé quelques mètres plus loin. Gradiella contient une explosion de haine. Le Emmerly oscille au bout de sa main.
Où est la gamine?
En sécurité, ma chérie.
Gradiella avance. Le canon du revolver se pose à quelques centimètres de sa poitrine. Le fond de teint ocre sur son visage strié de larmes et de rides a des allures de maquillage guerrier. Elle s'efforce de faire baisser la tension, de conserver le contrôle de la situation et d'elle-même.
Il rime à quoi ton numéro de grand guignol?
Je devais venir avec une monnaie d'échange pour Liane, comme tu me l'avais demandé. Mais tu me croyais assez stupide pour te livrer Sopha? Il fallait simplement qu'elle reste le plus longtemps possible avec moi. Tu devais écouter la radio en boucle, suivre ma traque en direct. Si j'avais confié Sopha à la police, tu l'aurais su immédiatement. Tous les médias l'auraient annoncé triomphalement.
Gradiella laisse exploser un rire forcé.
Comme c'est touchant! Et tellement ridicule aussi! Elle ne doit pas être loin dans ce cas. Avec un peu de chance, j'ai le temps de vous liquider tous les deux et de faire un tour de 4x4 pour la débusquer.
Un bref instant, Gradiella détourne le regard et jette un œil vers le zodiaque. Martial n'hésite pas cette fois. Il lance brusquement son bras en avant et d'un revers de main, frappe le revolver pour le projeter 2 mètres plus loin. L'arme se bloque entre 2 galets. Gradiella lâche un juron. Martial la repousse violemment. Il a repéré le Emmerly. Il se précipite, efface les 2 mètres en 3 bonds. Il se baisse, sa main se referme sur le revolver. Il se retourne et pointe l'arme. Cette folle va en... Le soleil disparaît sous une lune noire. C'est la dernière image qu'il perçoit. La seconde suivante, le galet noir que Gradiella a saisi à 2 mains lui enfonce la tempe. 16h31.
La fée au parasol. Elle est là, devant moi. Je vois le grand parapluie bleu au-dessus des tiges. J'y suis presque. C'est un parasol, m'a dit papa, pas un parapluie. La fée bleue ne m'a pas vue. Elle garde les yeux et son sourire doux de maman qui pardonne. J'écarte encore les tiges de canne à sucre. Elles me font mal, comme si j'étais obligée de nager dans une mer d'algues coupantes. Mais il y en a moins maintenant. Je crois que j'arrive bientôt au bout du champ. Je peux courir plus vite encore. J'entends la route. J'aperçois des maisons au loin. Papa m'a dit d'attraper la première personne que je vois et de lui dire que je m'appelle Josapha Bellion. Seulement ton nom, m'a dit papa. La première chose que la personne fera sera d'appeler la police. Comme tu veux, papa. Si tu crois que la police est plus efficace que les fées contre les sorcières.
Sopha n'aura jamais la réponse. Brusquement, elle franchit le dernier rideau de canne à sucre, les yeux fixés sur le parasol bleu et or. À aucun moment, elle n'aurait pensé que le champ de canne s'arrêtait net pour laisser place à la coulée de lave. Son pied droit bute le premier contre les scories anthracites. Sopha perd l'équilibre. Son pied gauche accroche à son tour un bloc de tuf. La fillette roule sur plusieurs mètres. Pendant qu'elle voit tourner dans le ciel la fée bleue et son parasol, telle une funambule défiant la pesanteur, elle sent tout son corps se déchirer sur cette dentelle de pierre noire et coupante. Elle n'a pas le temps de pleurer, ni même de souffrir. Sa tête heurte le tronc maigre d'un bois de rempart qui tente de se faufiler entre les étroits interstices de la lave refroidie.